Claude, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Ce matin, le faux assassinat du journaliste ukrainien Arkady Babchenko.
Une histoire qui laisse une trace physique palpable sur un journal qui est encore en kiosque ce matin et qui est le journal de référence. Le Monde, version papier, est paru hier avec à la une la photographie d'un homme grave et beau, comme ceux dont on pense qu'ils sont morts pour la liberté. Vive émotion après le meurtre d'un journaliste russe à Kiev, la nouvelle barrait le cœur de la une. Et pourtant, c'était faux, mais le monde ne le savait pas. Comment deviner quand le premier ministre ukrainien, Volodymyr Roisman, accusait Moscou sur Facebook ? Je suis convaincu que la machine totalitaire russe ne pouvait pas pardonner son honnêteté, disait le dirigeant ukrainien. C'est dans Le Monde d'hier également, en kiosque. Un moment donc de notre vérité commune, qui en réalité était un mensonge, car l'on sait maintenant que Babchenko n'était pas mort et que tout ceci n'était qu'un leurre, monté avec les services secrets ukrainiens pour déjouer une véritable tentative d'assassinat venu de Russie, une ruse, nous dit Libération, imitée de Sherlock Holmes, inspirateur des espions d'Ukraine. Voilà donc de la littérature pour conjurer le vertige. Babchenko mourra un autre jour, titre assez une Libération. C'est le Die Another Day de James Bond. Le journal tente donc de sourire à sa une. Il n'y a pas mort d'homme, mais le sourire est un évitement. Babchenko est en photo dans Libération, dans le Parisien, dans le Figaro. C'est le même homme qu'à la une du Monde, mais on le regarde bien sûr différemment. Il a les bras croisés sur la plupart des photos, comme dans un réflexe de défense pour se protéger de ce qu'il a fait. Celui dont le Figaro nous dit qu'il est le plus grand talent du journalisme narratif russe depuis Anna Politkovskaya, elle-même vraiment assassinée à Moscou en 2016. Celui-là a menti et il pose à côté d'un général ukrainien. Cela ne fonctionne pas. Le Parisien parle de la fake news. Le mot est terrible. Babchenko s'est excusé. Mais on se souvient d'une autre manipulation organisée par les Français qui avaient organisé un faux enlèvement du journaliste Virgil Tanase pour le protéger des tueurs du régime communiste roumain dans les années 80. C'est sur le site du Parisien, c'est sur Explicite. Et ce rappel est utile car il nous dit que si le journaliste est devenu menteur, eh bien la faute en incombe à ceux qui le menaçaient. Le Monde, tout à l'heure, quand il sortira, va consacrer son éditorial à l'affaire Babchenko, mais on peut déjà se lire celui du New York Times, un texte solennel qui précise le journal engage sa direction. Le New York Times dit deux choses. D'abord cela. Les autorités ukrainiennes doivent expliquer pourquoi elles ont considéré comme nécessaire de compromettre l'intégrité journalistique. Mais ensuite, le New York Times rappelle d'autres affaires impliquant la Russie, bien documentées celles-là. L'avion de la Malaysian Airlines abattu en 2014, l'empoisonnement d'un agent double russe et de sa fille au Royaume-Uni, affaires auxquelles la Russie oppose toujours les mêmes démentis. Et c'est alors Vladimir Poutine que le New York Times décide d'accabler. Poutine, auquel le journal oppose la phrase de Solzhenitsyn « Nous ne vivrons pas de mensonges », Poutine qui semble, je cite le New York Times, « toujours plus menteur et déshonoré, more deceitful and dishonorable ». Ainsi, le journalisme ne renonce pas. Dans Society, vous lirez l'histoire du Daphne Project. C'est la reprise par un consortium de journalistes internationaux des enquêtes que Daphne Caruana Galizaya avait dû abandonner après son assassinat à Malte, où la corruption fait rage le journalisme.
Des coulées de boue sont dans la presse aujourd'hui.
Oui, on voit la une de Nord Littoral, des villageois de Louche qui déblaient un magma boueux, car une trompe d'eau a créé une coulée de boue massive dans ce village de l'Ardrésie hier avant 17h. Ce sont les enfants qui ont crié en bas. On a essayé de boucher l'entrée du garage avec ses sacs, mais c'est allé trop vite. Et Nord Littoral décrit la solidarité d'un village. Même scène dans la Voix du Nord, avec l'histoire de Thierry, éleveur de chèvres au sud de Hesdin, qui a dû déplacer ses biquettes qui pataugeaient dans l'étable. Et c'est l'autre mission des journaux, être simplement avec nous, au plus près, quand le sort est contraire ou quand un projet gouvernemental est compliqué. Ainsi, le Parisien essaye de nous expliquer la réforme annoncée des retraites, nous aider donc aussi, j'y reviens, dans les orages. Le courrier Picard donne à ses lecteurs des conseils pour faire jouer les assurances. La Voix du Nord explique comment se protéger de la foudre, comment éviter que le ciel nous tombe sur la tête, car oui, dans le Nord-Pas-de-Calais, la foudre et les orages ont mis le feu à une toiture à Anzin et détruit un corps de ferme à Saint-Amand-les-Eaux. Conseil, il vaut mieux débrancher les appareils électroménagers, installer un parafoudre sur le tableau électrique et si on est dans une bâtisse isolée, installer un paratonnerre, coût estimé entre 3 et 4 000 euros. Les orages reviennent aujourd'hui, Léa, nos journaux sont avec nous.
Et de la mémoire pour finir.
Dans l'Obs, la mémoire toujours plus jeune de notre monsieur sport Jacques Vendroux, pistonné de la 5e République, ainsi se décrit-il, car il était gamin ce petit-fils du général de Gaulle qui ne voulait pas faire d'études pour devenir Gordon Banks, le grand gardien de but anglais. Finalement, On nous l'a amené ici par piston, qui le regrette. Dans l'Obs encore, la mémoire de Madeleine Riffaut. Elle n'a pas l'air commode à 93 ans, ses yeux mi-clos, Madeleine Riffaut, encore moins commode quand elle avait 20 ans, jupe culotte et cheveux flottants sur les épaules, qui, résistante, abattait un soldat allemand. J'étais la seule fille du groupe, c'était plus facile pour moi de m'approcher. J'ai attendu qu'il se retourne, je ne tire pas dans le dos. Il est mort sur le coup. Elle sera, Madeleine, arrêtée et torturée et sauvée par la Libération de Paris dans sa cellule de Fresnes. Elle est devenue ensuite journaliste dans la presse communiste. Elle a été l'amie du poète Paul Éluard. Elle a été le grand amour pendant 50 ans de Nguyen Dinh Thi, dirigeant communiste vietnamien et compagnon de Ho Chi Minh. Et c'est toute une vie rouge communiste que l'on devine, le témoignage d'une réalité disparue. Tiens, elle écrivait aussi des poèmes dans sa cellule, cette femme, je vous l'offre. 7 pas de long à ma cellule. Et en largeur, 4 petits. On doit me fusiller demain. As-tu peur ? Dis oui ou non. Madeleine Riffaut, résistante, 93 ans, vit à Paris, dans l'Obs, dans nos journaux.
Et elle fume le cigario ?
Et elle fume le cigario. Et elle veut qu'on lui apporte des roses. Hein,
bah
à ceux qui voudraient la rencontrer. Une rose à la fois.
Merci Claude pour cette revue de presse.